Vous écoutez
RMC.
Lundi 6 juillet.
L'info sur RMC.
Il est 6h juste. Merci d'être là avec nous. C'est Céline Kallmann qui est là pour les dernières informations. Céline, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Visite surprise de Jean Castex hier soir dans un commissariat de la Courneuve, près de Paris. Soutien affiché du nouveau Premier ministre aux forces de l'ordre. On connaîtra aujourd'hui les visages du nouveau gouvernement. Mélanie Lemay avait 25 ans. Gendarme, elle a perdu la vie samedi soir près d'Agen, fauchée par un automobiliste qui a voulu éviter un contrôle. Il est en garde à vue. Et puis c'est le grand jour pour le Louvre. Le musée va de nouveau accueillir des visiteurs. Il faut réserver et porter un masque. Bienvenue à tous sur RMC. Une visite surprise et symbolique. Hier soir, après avoir dîné avec Emmanuel Macron, Jean Castex s'est donc rendu dans un commissariat de la Courneuve en Seine-Saint-Denis. Le nouveau Premier ministre a exprimé son soutien aux forces de l'ordre. Marion Fournet.
Les questions de sécurité publique sont parmi mes toutes premières préoccupations. Devant la quinzaine de policiers présents, Jean Castex s'est voulu rassurant et à l'écoute. Je sais que vous attendez de nous des actes, ils viendront. Vous attendez de nous de la reconnaissance et du soutien. Ils seront sans faille, a indiqué le Premier ministre. Mehdi Afsi, l'un des adjoints au maire de la Courneuve, a assisté à la visite de Jean Castex.
Moi, je l'ai trouvé quelqu'un de serein, quelqu'un de rassurant. Nous, ce qu'on attend, c'est des engagements, des moyens vraiment visibles rapidement sur notre collectivité, sur notre ville. Est-ce que ça va être des engagements qui seront concrétisés ou pas? On verra avec le temps.
Des engagements et des mesures particulièrement attendues dans ce département actuellement au cœur d'un scandale. C'est là que la compagnie de sécurisation et d'intervention de la police a été dissoute après la mise en examen de 4 agents pour faux et usage de faux notamment. Et puis il y a cette phrase qui n'est pas passée inaperçue concernant le sort de Christophe Castaner, place Beauvau. J'aurai l'occasion de me déplacer plus tard avec le ministre de l'Intérieur qui sera nommé sur ma proposition.
Emmanuel Macron souhaite un gouvernement de mission et de rassemblement. Hier soir, le chef de l'État a publié une série de tweets où il assure ne vouloir laisser personne au bord du chemin. Il affirme aussi vouloir s'adapter aux bouleversements internationaux et aux crises. Paul Barcelone, sur la nouvelle photo de famille, il y aura une vingtaine de ministres et ministres délégués. Des secrétaires d'État seront annoncés plus tard.
Un gouvernement de mission et de rassemblement avec une vingtaine de ministres et ministres délégués. Il y aura de nouveaux talents, des personnalités venues d'horizons différents, assure l'entourage d'Emmanuel Macron, qui confirme que les secrétaires d'État seront annoncés plus tard. Parmi les poids lourds du précédent gouvernement, certains sont quasi assurés de rester. Bruno Le Maire à l'économie, son collègue à Bercy, Gérald Darmanin, ou encore Olivier Véran à la santé. Mais ce remaniement reste une équation politique à plusieurs inconnues pour Emmanuel Macron et Jean Castex. L'enjeu est notamment de maintenir la parité homme-femme alors que plusieurs femmes sont données partantes comme Muriel Pénicaud et Nicole Belloubet. Mais il s'agit aussi de satisfaire les alliés de la majorité comme le Modem. Emmanuel Macron dévoilera la feuille de route du nouveau gouvernement lors d'une prise de parole le 14 juillet.
Jean Castex recevra ce soir les députés et sénateurs de la majorité à Matignon. Notez que le vice-président Les Républicains, le député Guillaume Pelletier, sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin à 8h30 sur RMC et BFM TV. Sur la feuille de route du nouveau Premier ministre, le dossier des retraites qu'il veut régler à court terme. Philippe Martinez, le patron de la CGT, a affirmé hier que tous les syndicats étaient d'accord pour dire que la réforme n'était pas un sujet prioritaire. Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière, réagira ce matin sur RMC. C'est à 7h40. Une administration de la santé complètement dépassée, des préfets relégués au second plan, un numéro d'urgence saturé. Dans un rapport qui n'a pas été finalisé mais qui a fuité dans la presse, la Fédération des pompiers trie la gestion de l'épidémie de coronavirus par le ministère de la Santé et ses agences. Margot Bédé.
Un règlement de compte en public. Voilà comment Éric Revu, chef du service des urgences de l'hôpital Lariboisière à Paris, perçoit ce rapport.
C'est un sentiment de frustration des pompiers d'avoir l'impression de ne pas avoir été impliqués dans le dispositif. C'est complètement polémique et inutile en plus.
Des failles sont pourtant pointées par ce rapport. Le 15, par exemple, comme numéro unique de santé, Christophe Prudhomme, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France, en a fait les frais.
Pour tout renseignement, il fallait appeler le 15. Notre standard a explosé parce que rien n'avait été prévu. Les délais de décrochage était de plus de 30 minutes. Si vous appelez pour un infarctus, pour un arrêt cardiaque, ça s'appelle une perte de chance, et une perte de chance, c'est de la surmortalité. Maintenant, il faut écouter les personnes de terrain.
Et c'est justement ce que demande Grégory Allion, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, avec davantage de coordination.
Peut-être que cela aurait fonctionné beaucoup mieux en mettant tout le monde à la main de nos préfets, à la main de nos maires, pour faire en sorte que la crise soit répondue de la meilleure manière et de manière pratique, mais en plus de proximité territoriale.
Le rapport propose notamment la création d'un ministère ou d'un secrétariat d'État chargé de la gestion des crises et des situations d'urgence.
Le Covid-19 qui continue de se répandre, plus de 39 000 nouveaux cas en 24 heures aux États-Unis. Le Chili lui a franchi le seuil des 10 000 morts. Des chercheurs alertent ce matin à l'Organisation mondiale de la santé sur la manière dont le virus se transmet. Selon les travaux de centaines de scientifiques de 32 pays différents, le coronavirus se transmet aussi par de minuscules gouttelettes qui peuvent traverser une pièce et donc infecter plusieurs personnes. RMC 6h05, elle s'appelait Mélanie Lemay, avait 25 ans, était gendarme et judokate. Samedi soir, la jeune femme originaire de l'Orne en Normandie a été heurtée par un conducteur qui a refusé d'obtempérer. Ça s'est passé vers Agen, elle n'a pas survécu. Le chauffard est lui depuis en garde à vue, Gladys Lafitte.
À 27 ans, le conducteur est déjà connu des services de police et de gendarmerie pour des délits routiers, notamment une suspension de permis et des délits liés aux stupéfiants, explique une source proche du dossier. Samedi soir à 20h50, il refuse de s'arrêter à un premier contrôle routier. En fuyant, il tombe sur un deuxième barrage tenu par des policiers, fait demi-tour. Les forces de l'ordre sont alors en alerte. Un dispositif d'interception est mis en place à Port-Sainte-Marie. C'est là que sont postés Mélanie Lemay et ses collègues. Le conducteur refuse une troisième fois donc de s'arrêter. Il fait un écart pour éviter une herse au sol. Il heurte alors violemment la gendarme. Un choc si violent que la jeune femme décède sur place. Placé en garde à vue, l'homme est effondré, selon une source proche de l'enquête.
Hier soir, un gendarme a été blessé. Là aussi, un conducteur a refusé de s'arrêter. Ça s'est passé à un barrage routier à Gouzeaucourt, dans le nord, à l'est d'Amiens. Il a roulé sur le pied du militaire en prenant la fuite. Deux semaines après Bastia, c'est à Ajaccio cette fois que des centaines de personnes, principalement des femmes, ont manifesté contre les agressions sexuelles et les violences. Le mouvement I Was, j'avais en français, a pris une ampleur considérable dans l'île. Nous y reviendrons dans un reportage à 7h sur RMC. Le musée du Louvre, comme vous ne l'avez sans doute jamais vu. Ça y est, il rouvre aujourd'hui après plus de trois mois de fermeture due au Covid-19. Règles sanitaires obligent, la fréquentation va être limitée à 30% de l'affluence habituelle. Le masque sera obligatoire. Benjamin Pelsi.
Contempler le radeau de la Méduse est de nouveau possible. 70% des galeries du musée retrouvent le public. Leïla Sharif Adria est chargée de la surveillance et de la sécurité du Louvre.
On s'est concentré effectivement sur les espaces les plus appréciés et avec une attention particulière pour le public familial, avec les antiquités égyptiennes qui, elles, seront ouvertes en intégralité sur toute la période.
Pour admirer les sphinx ou les sarcophages, il faudra suivre un sens de visite strict et l'achat des billets s'adapte lui aussi au coronavirus.
La réservation est obligatoire. Il est fortement conseillé de la prendre en ligne, même s'il reste la possibilité de la prendre sur place, mais c'est uniquement si des créneaux sont toujours disponibles.
En temps normal, 8 visiteurs sur 10 sont d'origine étrangère. Cet été, il devrait être bien plus rare. Jean-Luc Martinez, le directeur du musée, est donc confiant quant à l'application des distances de sécurité.
Le musée est très grand, donc il n'y a aucun problème ici pour respecter les distances. Ce n'est pas le lieu où on va être écrasé les uns sur les autres. Donc ça signifie en effet que c'est le moment de venir.
Les visiteurs devront porter un masque et devant la Joconde, des emplacements sont délimités pour encadrer le traditionnel selfie.
Il faut réserver pour aller au Louvre. Il y a déjà plus de place aujourd'hui, j'ai regardé ce matin.
Bien, Céline, on vous retrouve tout à l'heure, à 7h.